le studio Kalangou, il est 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français avec Rafika Taher. À présent, les titres de cette édition du 30 mai 2022, ouverture ce matin à Niamey de la session mensuelle du Conseil supérieur de la communication CSC. Elle dure 5 jours et 5 points sont inscrits à l'ordre du jour. Des précisions dans un instant. Depuis quelques jours, une pénurie de gasoil est constatée dans certaines stations-service du Niger. Le chargé de communication de la SONIDEP donne des explications dans ce journal. Dans la partie magazine de cette édition, à suivre la réaction du président de la coalition nigérienne contre la peine de mort. C'est suite à la condamnation à mort de 5 personnes. Début ce matin à Niamey de la session ordinaire du mois de mai 2022 du Conseil supérieur de la communication. Le projet d'ordre du jour comporte 5 points dont l'examen de la décision portant suspension provisoire d'un média de la place en application des dispositions de l'article 18 nouveau de la loi 2012-34 du 7 juin 2012. Les propos du Dr Kabir Sani, président du CSC, recueillis par le studio Kalangou.
En application des dispositions de l'article 18 nouveau de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012, portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et les textes modificatifs subséquents qui disposent, je cite, qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publique et privée et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes. L'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission, l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission ou la fermeture temporaire de l'organe. Il appartient donc à la plénière du Conseil supérieur de la communication d'examiner en toute souveraineté la mesure prise conformément aux dispositions de l'article 46 du règlement intérieur du CSC.
Comme annoncé dans les titres, depuis quelques jours, il est constaté une pénurie de gasoil dans différentes stations du pays. Une situation qui, selon le directeur de la communication de la Société nigérienne d'exploitation des produits pétroliers SONIDEP, est due à la fraude massive de ce carburant vers le Nigeria, où il coûte plus cher à cause de la crise internationale des hydrocarbures. Pour pallier au problème, la SONIDEP envisage d'augmenter le prix pour décourager les fraudeurs. Bio Abdraman, le chargé de la communication de la SONIDEP.
La crise mondiale a fait que le fuel lourd est devenu une problématique mondiale. Et la Nigelec et l'Islimar ont cessé de le prendre, ils se sont rabattus sur le gasoil. Parmi les 46 citernes que nous utilisons pour la consommation interne et l'export, on va réduire 10 citernes pour mettre à la disposition de la Nigelec et de l'Islimar pour éviter qu'il y ait encore des crises par rapport à l'électricité. Au niveau de l'export, nous avons des engagements avec des clients qui ont versé leur argent avec la SONIDEP. Depuis le 3 mai passé, la SONIDEP ne prend aucun franc de client à l'export. Nous avons attiré l'attention de l'État. Il faut que l'État puisse arrêter cette forme de fraude inverse qui consiste cette fois-ci à prendre du Niger, surtout les gasoil, pour l'amener au Nigeria, et puis à arrêter cette ruée vers nos stations de Vergaïa. Donc tout le monde se rabat sur le Niger parce que le produit est moins cher chez nous. D'où la pénurie que nous avons constatée. Ou carrément augmenter le prix du gasoil afin que nous puissions être quittes.
C'était des propos recueillis par Moussa Hassan. Le Niger a mis en place depuis le début de ce mois de mai un guichet unique du commerce extérieur. Selon le directeur général de Web Fontaine, le groupe chargé de la mise en œuvre du GUS au Niger, cette initiative permettra la facilitation des opérations liées aux importations et exportations des marchandises, à savoir les commandes, les douanes, les transports, les services fiscaux et le transit. Ali Karim donne des précisions au micro de Nafisa Adamou.
Ce que Webfontaine apporte à travers ce nouveau projet de guichet unique commerce extérieur, c'est la dématérialisation totale de toutes les procédures d'importation et d'exportation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'aide du guichet unique, les opérateurs n'ont plus besoin de se déplacer pour effectuer des opérations d'importation ou d'exportation. Donc la première des choses à faire par les opérateurs économiques est de créer un compte au niveau de la plateforme du guichet unique du commerce extérieur qu'on appelle GUS Niger. Physiquement, elle se trouve dans les serveurs qui sont au niveau du siège de Webfontaine, mais tout le monde peut y accéder car elle est accessible par Internet et elle est sécurisée. On a démarré aujourd'hui, il y a à peu près 2 semaines, avec la première phase qui sont toutes les procédures de pré-dédouanement au niveau de la Chambre de commerce et du ministère du commerce. Puis ensuite, au fil des mois, nous allons inclure les différents modules pour le plus grand plaisir des opérateurs économiques, mais aussi des acteurs institutionnels qui eux aussi n'auront plus besoin de se fatiguer avec de la paperasse. Ils auront tout sur leurs interfaces.
De la région de Maradi, la dynamique des enseignants, un regroupement des syndicats de l'enseignement décide de suspendre toutes les activités académiques ce lundi 30 mai. Ces enseignants protestent ainsi contre l'agression de leurs camarades de l'école Zaria de Maradi le samedi dernier par des parents d'élèves. Farsante Magaji du CINASEB est au micro de Mohamed Maman.
Le jeudi passé, nous avons été victimes d'agressions non seulement morales mais aussi physiques. Alors que nos camarades de Zaria 1, 2 et 6 et 10 ont été victimes d'attaques, elles ont été molestées, n'est-ce pas, juste suite à une petite altercation. Il y avait une fillette qui était de passage dans la cour quand la directrice avait demandé à cette dernière de rebrousser chemin. Mais malheureusement, cette dernière s'est opposée et jusqu'à injurier, n'est-ce pas, donc la directrice. Et la directrice étant énervée parce qu'elle ne s'attendait pas comment une petite fille, n'est-ce pas, à son âge, elle va se permettre l'injurier, elle avait juste fait quelques coups de fouet et la fille, elle était rentrée à la maison en criant et autour d'elle, n'est-ce pas, donc tout un groupe de personnes était mobilisé pour venir directement attaquer, n'est-ce pas, donc nos collègues dans les locaux de l'école. Chose curieuse à laquelle on ne s'attendait pas. Un seul instant, nous n'avons en tout cas pensé que nous serons victimes de ce genre de traitement de la part de la population.
La première session du conseil communal du cadre de concertation de Junju s'est tenue les mercredis et jeudi derniers. C'était l'occasion pour les participants de faire un diagnostic sur la gouvernance de la localité, en particulier sur les ressources de la commune. Garba Nuhu, maire de Junju, explique au micro de Fadel Allo.
Nous avons débattu de la thématique sur la mobilisation des ressources internes, sur l'incivisme fiscal. Donc il fallait diagnostiquer les causes profondes de l'incivisme fiscal dans la commune. Pourquoi les gens ne veulent pas payer l'impôt? Pourquoi les taxes et impôts ne rentrent pas dans la commune? Et si ça ne rentre pas, après ce diagnostic, quelles sont les pistes de solution? Et c'est tous ces problèmes-là que nous avons posés sur la table. Et les gens vraiment, sans tabou, hein, il n'y avait pas de tabou et tout le monde a apporté sa contribution. Tout le monde a compris où se trouvent les problèmes. Les gens ont fait de belles propositions et nous avons dégager des pistes, des solutions qui peuvent permettre en tout cas à la commune de renforcer ou d'augmenter son assiette fiscale en tout cas afin de contribuer véritablement au développement social et économique.
En prélude à l'installation de la saison des pluies, le gouvernement nigérien a mis à la disposition des producteurs nationaux des réserves de semences et intrants agricoles. Cette initiative entre dans le cadre de la politique du développement agricole dont le but est d'améliorer les cultures et booster les récoltes, a indiqué Alhaji Kachalla Kalla Abdou, directeur départemental de l'agriculture de Difa. Il est au micro de Guidi Abdraman.
Pour le moment, nous avons reçu au total 66 tonnes et 500 kg de semences, soit 24,5 tonnes d'huile, 20,6 tonnes du niébé, 15,9 tonnes de sorgho et 6 tonnes du sésame. Nous avons reçu ces semences de la part du gouvernement et des partenaires, en particulier Prolac. Nous sommes en train de nous préparer pour les acheminer dans chaque commune et de là les distribuer aux producteurs afin qu'ils puissent semer à temps. Cette année, nous avons commencé les préparations tôt par rapport à l'année passée, mais nous ne savons pas ce qui peut advenir au fil du temps. Selon nos statistiques, le département de Chetmarie a le plus grand nombre de villages ayant enregistré une campagne agricole déficitaire l'année passée. Nous voulons qu'on privilégie ces villages dans la distribution de ces semences.
Au total, 140 millions de dollars ont été recueillis pour faire face aux questions de crises humanitaires du continent africain sur un besoin de 14 milliards de dollars à l'issue du double sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu les 27 et 28 mai à Malabo, en Guinée équatoriale, sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels, rapporte RFI le 29 mai. Selon les chefs d'État, les causes de ces crises humanitaires sont les conflits armés, les terrorismes, l'extrémisme violent, le changement climatique et ses corollaires, les inondations prolongées et la sécheresse. Les étudiants en Master 2 du département Arts et Culture de l'Université Abdou Moumouni de Niamey bénéficient depuis la semaine dernière d'une formation en arts plastiques. Après des cours sur la théorie de l'art, les étudiants et leurs formateurs se sont lancés dans la création d'une œuvre intitulée « Le porteur du destin ». Ponce Zanou, artiste béninois et enseignant d'art plastique, explique au micro de Rabia Mekano.
On a eu 5 jours pour la théorie de l'art, l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, la sociologie de l'art. On a englobé tout cela afin de permettre aux étudiants d'aborder, disons, la critique artistique. Afin de plonger dans l'œuvre d'un artiste, il faut avoir des outils. Parmi mes étudiants, il y a certains, sinon la majorité, a le désir et aussi à la main agile pour toucher aux œuvres. L'objectif ici, c'est de produire une œuvre qui parle à la jeunesse. L'œuvre est intitulée « Le porteur du destin ». Dans cette œuvre, je présenterai bien sûr des personnages qui portent des ombres et dans leur ombre, on peut lire leur destin. J'ai appuyé sur un certain nombre de choses et ça permettra aussi à ceux qu'ils vont former d'amorcer cette connaissance esthétique.
L'entraîneur de l'équipe nationale A de football du Niger, Mina, a dévoilé ce matin la liste des joueurs retenus pour les deux premiers matchs éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Côte d'Ivoire 2023. Parmi les joueurs retenus, plusieurs jeunes évoluent dans le championnat national. Toutefois, on note l'absence de quelques internationaux. Jean-Michel Cavalli, coach du MENA, donne les raisons de son choix au micro de Soumana Amadou.
Aujourd'hui, pour des tas de raisons, sociales, mais bien entendu aussi sportives, il faut encourager davantage les joueurs au niveau des finances. Moi, je pense qu'ils méritent. Mais ils méritent pourquoi? Parce qu'en plus, il y a des bons joueurs. Et les joueurs, si vous ne vous en occupez pas, ils disparaissent dans la nature derrière. C'est que le joueur qui vient en pensant que c'est le MENA qui lui doit, il ne m'intéresse pas. Le joueur qui vient et qui veut tout donner pour le MENA, ça c'est déjà la base, le socle, pour pouvoir travailler le reste. Même s'il y en a qui ne sont pas là, qui ont véritablement prouvé qu'ils étaient de bons joueurs, n'étaient jamais au service de l'équipe. C'est pas on est là pour qu'on me voie jouer, afin qu'un club vienne me récupérer pour aller signer ailleurs. Donc vous avez des fois des joueurs de vestiaire aussi, qui sont importants. Et quand je les fais rentrer, il s'est battu avec un cœur gros comme ça. Et toutes ces petites qualités, rassemblées tout ensemble pour l'équipe, fait forcément pour moi un meilleur espoir de qualification.
Le Niger compte à ce jour 8 personnes condamnées à mort, dont une femme. C'est donc la dernière condamnation à mort de 5 personnes, dont une condamnée à vie, prononcée le 24 mai 2022 aux assises de Tillabéri, qui suscite l'indignation des structures abolitionnistes du Niger. C'est un recul auquel nous assistons sur le terrain, s'indigne le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort, Garba Ilou Al-Mokhtar. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
C'est un recul très grave que nous sommes en train de constater sur le terrain. Le Niger, qui est un pays abolitionniste de fait, que depuis 1976 n'a jamais exécuté la condamnation à mort. Le Niger est sur moratoire depuis 1986. La Constitution de la République du Niger, qui est la loi fondamentale, disposait dans son article 11 que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de le respecter et de le protéger. Et l'article 12 continue à prôner la sacralité de la vie humaine. Nous sommes surpris que jusqu'en 2022, le Code pénal et le Code de procédure pénale détiennent toujours un chapelet de dispositions et d'articles entraînant à la sanction de mort, notamment l'article 243, l'article 242. Je parle vraiment ici à cœur serré. Actuellement, on assiste à une floraison de condamnations à mort. La semaine passée, c'est au niveau de la région de Dosso qui est un condamné à mort. Avant-hier, lors des assises de la chambre criminelle de Tillabéri, nous avons assisté à 4 condamnations à mort et une condamnation à vie. À quoi s'ajoute aux 3 condamnés à mort existants depuis 2021, aujourd'hui nous comptabilisons ils ont 8 condamnés à mort au Niger.
Depuis un certain temps, le gouvernement nigérien s'est inscrit dans la logique de vouloir modifier le code pénal et le code de procédure pénale. Pourquoi vos préoccupations n'ont pas été prises en compte par le gouvernement à travers cette décision?
Vous savez, c'est normal. C'est le ring international. Nous continuons vers l'universalité de l'abolition. Le Niger a tenté. Le Niger est en train d'avancer, mais malheureusement, il y a un recul, comme je l'ai dit, au niveau des techniciens de droit. Parce que dès lors que le code pénal dispose d'une disposition entraînant à la sanction de mort, le juge ne peut rien faire. Mais ce qu'il va falloir apprécier et effectivement, le Niger a pris un décret de commutation depuis 2014, commuant systématiquement toute condamnation à mort à une condamnation à vie. Nous le saluons. Nous avons compris. Malgré tous nos efforts, nos sensibilisations, nos conférences, débats, tables rondes, on a rencontré toutes les couches sociales.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas finalement marché?
Le goulot d'étranglement, c'est la mobilisation et la sensibilisation au sein du politique. Le politique a tendance à aller vers l'abolition.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.